Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour, chers amis auditeurs. Nous nous retrouvons pour la troisième leçon de notre étude de ce trimestre sur la vie chrétienne. Et cette semaine, nous allons voir l'espérance. L'espérance, c'est pour la semaine du 11 au 17 avril 2009. Voici un verset qui nous est proposé pour commencer, c'est dans 1 Pierre 3, verset 15. « Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en vous. » Et la pensée centrale, « Les fidèles en Jésus-Christ possèdent une espérance dans un monde qui n'en offre aucune. Cette espérance ne se fonde pas en nous, ni en ce que nous-mêmes ou le monde peut offrir. » Elle se fonde uniquement sur Jésus et sur ses promesses. Depuis le début du siècle des Lumières, 17e siècle, l'optimisme a dominé la pensée occidentale. Le 20e siècle a débuté dans une ambiance de grand optimisme. Les êtres humains avaient la possibilité de tout comprendre grâce à la raison. Ils étaient également capables de perfection morale. Des inventions nouvelles, de nouveaux modes de transport, l'accroissement fabuleux des connaissances médicales, la création de machines nouvelles et le progrès constant de la moralité humaine amélioreraient la condition de toute vie. Mais après deux guerres mondiales, l'Holocauste, la menace nucléaire liée à la guerre froide et le terrorisme mondial, dangers constamment présents, tout cela associé à la prise de conscience que l'humanité est en train de détruire l'environnement dont elle a besoin pour sa survie, il ne reste guère de place pour l'optimisme. Néanmoins, l'espérance existe, non en rapport avec ce que nous voyons ou ce qu'il nous est possible de faire, mais grâce à ce que Dieu nous a promis par Jésus, son Fils. Commençons cette semaine avec la journée du dimanche 12 avril 2009, et là il s'agit de l'espérance au sein du monde. Après le 11 septembre 2001, notre vie a changé. On se souviendra toujours de ces images d'avions remplis de passagers s'enfonçant dans les tours jumelles du World Trade Center. Nous avons tous conscience que cela pourrait se reproduire. Il ne sera jamais complètement possible de se protéger de gens prêts à mourir en détournant des avions remplis d'hommes, de femmes et d'enfants pour les utiliser comme des bombes volantes ou à commettre un attentat suicide à un arrêt de bus ou dans un supermarché. La peur est universelle et si l'on considère le monde dans lequel nous vivons, c'est tout à fait compréhensible. Voyons quelles caractéristiques du temps de la fin Jésus a soulignées. Nous trouvons ce texte dans l'évangile de Luc, chapitre 21, les versets 25 et 26. « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Car les puissances des cieux seront ébranlées. Les transgressions ont presque atteint leur point limite. Le monde est rempli de confusion et une grande terreur surviendra bientôt sur l'humanité. La fin est imminente. Le peuple de Dieu doit se préparer à l'événement qui surviendra sur le monde de façon totalement inattendue. Ces quelques lignes étaient tirées du livre Child Guidance, en anglais, d'Ellen White. Notre monde est rempli de guerres, de corruption, de convoitises et de terreurs. Nous savons également que de nombreux événements pénibles doivent encore se produire. dans le monde et même dans l'Église. Mais quelles que soient les circonstances, nous avons une espérance en Jésus. Même si les nations ont peur, même si les gens s'évanouissent de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée. Il n'en sera rien pour ceux qui espèrent en leur Seigneur. Aucun de ces désastres ne doit nous prendre par surprise. La Bible nous a avertis tout au long de ces pages que nous devons nous attendre à travailler dur, à souffrir et à affronter des troubles jusqu'au retour de Jésus. L'observation de ces faits ne peut que confirmer la véracité de la parole de Dieu. Lisons maintenant dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, verset 28, quelle espérance Jésus nous offre malgré tout le tumulte et la peur régnant dans le monde. Luc 21, chapitre 21, donc verset 28. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Ainsi s'achève la journée du dimanche 12 avril. Le lundi 13 avril 2009 avec pour thème l'espérance ici et maintenant. L'espérance chrétienne est liée au futur. Le retour du Christ, la résurrection du peuple de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre, l'éternité auprès de Dieu. Mais le salut est également une réalité présente. Cette espérance nous met en face de ceux qui n'ont aucune certitude quant au sens de la vie et qui ne savent pas qu'en Christ, l'humanité possède un avenir éternel. L'apôtre Paul nous rappelle le changement radical qui se produit en nous lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur. Tant que nous sommes séparés du Christ, nous sommes sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12, qui nous le dit. Mais tout change lorsque nous sommes plus loin de Dieu, quand nous ne sommes plus loin de Dieu, mais que nous sommes devenus proches par le sang du Christ. Voyons en quels termes Jésus a décrit le changement radical qui se produit lorsque nous entendons sa parole et que nous croyons en lui. Nous trouvons la réponse dans l'Évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lisons encore maintenant quelle sorte de vie nous est offerte. Nous trouvons ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, et voyons ce que signifie cette promesse et comment en faire l'expérience. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'est en abondance. Le mot « vie » est l'un des termes clés de l'évangile de Jean. Dans Matthieu, Marc et Luc, ce terme désigne avant tout la vie éternelle. Mais dans l'évangile de Jean, l'accent est surtout mis sur les interventions de Jésus, ici et maintenant, en faveur de ceux qui croient en lui. Pour obtenir une vie en abondance, il existe deux clés. Savoir que la source d'une telle vie ne se trouve qu'en Christ. C'est une clé, c'est une de ces clés. Là où se trouve Jésus, se trouve la vie. Croire est la seconde clé pour y parvenir. C'est en entretenant une relation constante avec Jésus que les croyants s'approprient la vie qui est en lui. Jean 3, versets 16 et 36. Jésus nous propose une vie abondante, ici et maintenant. Que possédons-nous aujourd'hui que nous ne possédions pas avant de connaître le Seigneur et l'espérance qu'il nous a communiquée. Eh bien, c'est une pensée à méditer pour terminer cette journée du lundi 13 avril. Nous abordons le mardi 14 avril 2009 une espérance au-delà du tombeau. La mort est notre lot commun, même si certains seront vivants au moment du retour de Jésus. Nous avons tous perdu des êtres chers. Nous sommes quotidiennement confrontés à la sinistre réalité de la mort. Elle se rappelle à nous quand nous longeons un cimetière, quand nous apercevons un corbillard ou écoutons les nouvelles télévisées. Mais pire encore, nous la voyons de près quand il nous faut dire adieu à un ami ou à un proche. La mort est notre grand ennemi, mais elle sera vaincue. Lisons quelle est la glorieuse vérité concernant justement la réalité de la mort. Nous allons trouver quelques textes à vous proposer. Un premier se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Nous lirons les versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Nous avons un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et encore un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première, verset, chapitre 4 et verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. L'apôtre Paul, dans son célèbre chapitre sur la résurrection, 1 Corinthiens 15, souligne que l'espérance de la résurrection est un élément essentiel de la foi. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. De nombreux aspects concernant cette résurrection d'ordre physique nous échappent. Soyons cependant certains d'une chose, notre résurrection future ne dépend pas de la préservation de notre corps matériel actuel. La sauvegarde de notre identité et notre recréation, à un moment donné, à l'aide d'un corps nouveau et parfait, qui n'aura jamais besoin de chirurgie esthétique ni de pilules anti-âge, dépendent de la puissance du Créateur. Nous n'avons aucune idée de la façon dont Dieu va opérer ce miracle. Mais le Dieu qui, au commencement, a créé la vie ici-bas, a certainement le pouvoir de recréer la terre et de la remplir de personnes dont l'identité a été sauvegardée dans sa mémoire divine. Notre espérance ne se fonde pas sur ce que notre intellect ou nos sens pourraient vérifier. La résurrection implique une forme d'existence bien au-delà de tout ce que la science pourrait nous révéler. Elle se fonde sur la victoire du Christ sur la mort. En conséquence, la mort du croyant est un sommeil. Ce sommeil est temporaire, il s'en relèvera pour recevoir la vie éternelle. Réfléchissons pour conclure cette journée. Même avec une espérance aussi magnifique, la plus grande que nous ayons jamais eue, nous n'en haïssions pas moins la mort. Elle nous fait toujours peur, et nous la fuyons de notre mieux. C'est là quelque chose de naturel, car la mort n'a rien de naturel. Mais en même temps, comment nourrir et fortifier notre confiance en cette grande promesse de vie éternelle? Promesse qui seule est capable de faire reculer dès à présent notre peur de la mort. Eh bien, ainsi s'achève ce mardi 14 avril. Nous poursuivons l'étude avec la journée du lundi 15 avril 2009 et elle a pour titre « Une espérance éternelle ». Comment des êtres limités peuvent-ils comprendre ce que signifie le fait d'être éternel? Comment des mortels tels que nous, qui ne dépasseront sans doute pas 80 ans ou 90 ans, peuvent-ils comprendre ce que signifie le fait d'être immortel et de vivre éternellement? La vie éternelle ne sera pas simplement la continuation de notre vie présente. Cela ressemblerait davantage, pour de multiples raisons, à l'enfer plutôt qu'au ciel. La vie éternelle est d'une qualité totalement différente. Étant toujours dans notre condition de mortel, nous devons nous contenter d'un aperçu sur ce qui nous attend. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse et ne connaissons que partiellement. Lisons maintenant en quoi la vie éternelle sera différente de notre vie actuelle. Un premier texte se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous lirons les versets 42 à 44. Tout d'abord, voici ce que dit le texte. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts ?» Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et nous retrouvons de nouveau les versets 51 et 52 du même chapitre. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Nous avons encore un dernier texte pour cette journée. Il se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 et 4. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. De nombreuses questions restent sans réponse, tandis que nous réfléchissons à la vie qui nous attend. Questions qui ne pourront jamais trouver pleinement de réponse ici et maintenant. La résurrection de Jésus, cependant, nous donne des indications à ce sujet. Le Christ qui s'est relevé des morts était le même que celui qui est mort, sur la croix quelques jours plus tôt. Il est ressuscité dans un corps glorieux qui échappait désormais aux lois de la nature, contrairement à nos corps mortels actuels. Pourtant, son aspect ressemblait à la forme humaine qu'il possédait avant sa mort et sa résurrection. Sa personne était la même, reconnaissable par son apparence extérieure, sa voix et ses gestes. Cela donne de bonnes raisons de penser que ceux que nous connaissions dans cette vie et qui jouiront avec nous de la vie éternelle nous reconnaîtront. Pourtant, nous pouvons dès à présent faire l'expérience de la vie éternelle. Paul dit dans son épître aux Romains chapitre 8, les versets 10 et 11, que l'Esprit vient habiter la personne qui se tourne vers le Christ. Le croyant a ainsi une idée de la vie qui deviendra pour lui pleinement réelle dans le monde à venir. La présence de l'Esprit nous assure le salut éternel. Essayons d'imaginer ce que sera la vie sous de nouveaux cieux, sur une nouvelle terre, dans un corps nouveau. Comme il serait insensé de la rejeter en échange de ce que cette vie nous offre ici-bas, quel que soit ce qu'elle nous propose. Ainsi se termine cette journée. Continuons cette étude avec la journée du jeudi 16 avril 2009. Et là, le Christ, notre espérance. La venue du Christ a été prophétisée bien avant son arrivée dans le monde. Il est venu, fidèle à ses promesses. Nombreuses sont les promesses annonçant qu'il reviendrait. Il l'a lui-même affirmé. Jean 14, verset 3, « Je reviendrai ». À la dernière page de la Bible, cette promesse est réitérée. Oui, je viens bientôt. Telle est l'espérance des chrétiens. C'est la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est au retour de Jésus que l'espérance chrétienne atteindra son apogée. Et lisons pourquoi ces promesses sont cruciales pour tous les croyants. Nous nous tournons maintenant vers l'Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, nous lirons des versets 7 au verset 14. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Puis il me dit, ne ferme pas d'un seau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi la rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le remède ultime au problème du péché et de la misère qui en découle ne peut être le fait d'aucune intervention humaine. C'est le fait d'une intervention du ciel par le Seigneur Jésus-Christ. Ne plaçons pas notre espérance dans les technologies humaines, les politiciens habiles, le progrès social ou moral. Toutes ces choses ne peuvent résoudre le problème de la mort. Même s'il est important de connaître ce qui précédera et accompagnera le retour du Seigneur, il est encore plus important d'être certain de ses promesses. Le Seigneur revient bientôt. C'est juste une question de temps, c'est tout. On ne peut changer ce fait. Aucun tyran ne peut lui soutirer le monde. Celui-ci est inébranlablement et pour toujours entre les mains du crucifié. Personne ne peut revenir sur le calvaire, pas plus qu'on ne revient pas sur sa naissance. Depuis la croix, nous vivons une époque imprégnée par la victoire du calvaire, époque marquée par cet objectif. C'est pourquoi, quel qu'en soit ou non consciente, l'humanité n'avance pas simplement vers un but dont elle espère la réalisation lointaine, sans savoir ce qui arrivera jamais. Non, l'humanité avance triomphalement vers un but que Jésus a déjà atteint. Quelques lignes sont là, c'est une citation de Norman Goulet dans un livre en anglais, Christ is coming, Jésus revient. Ainsi donc s'achève ce jeudi 16 avril. Et là, nous vous proposons tout d'abord une citation d'un ouvrage d'Ellen White, « La tragédie des siècles ». Voici ce qu'elle dit. « Retenons ces mots majestueux. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Les ondes de vie, de lumière et de joie jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible, au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. » Voici quelques lignes à méditer pour terminer cette semaine. Que répondre à ceux qui estiment que notre espérance chrétienne, en une autre vie, nous empêche de nous soucier suffisamment des malheurs de celle-ci? Comment continuer d'espérer, même quand tout semble contraire? Comment expérimenter en partie, ici et maintenant, l'espérance en Christ? En quoi cette espérance transforme-t-elle la vie dès à présent? Comment, de façon réelle et visible, montrer à autrui quels sont les fruits et les bienfaits immédiats que l'on reçoit en demeurant fidèle au Dieu vivant. C'était donc quelques lignes à méditer. Voici maintenant, pour terminer cette semaine, un résumé qui nous est proposé. L'espérance est un élément vital de la vie chrétienne. Elle repose sur l'œuvre du Christ sur la croix. L'espérance chrétienne concerne notre vie ici et maintenant, car le royaume à venir est en principe déjà présent chez le croyant. Cependant, la pleine réalisation de cette bienheureuse espérance est encore dans le futur. Le monde, comme nous le savons, subit toujours les effets de la révolte de Satan, mais le résultat final est certain. Notre Seigneur règne et son royaume éternel sera bientôt instauré dans toute sa gloire. Telle est l'espérance que nous possédons, devenir toujours citoyen de ce royaume. Ainsi s'achève cette étude. Nous vous donnons donc rendez-vous, chers amis, à la semaine prochaine. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.